à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Sévrac-le-Château 102.3.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Présence midi, nous sommes très heureux de vous retrouver en direct avec à mes côtés Anne-Rose Jankovic. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Dans un instant, on vous retrouvera pour un invité spécial qui sera à votre micro. De quoi on va parler ?
Nous allons parler d'un ministère de consolation et d'apaisement. Comment combattre les tentations du diable ? Eh bien, avec trois piliers, l'écoute, le discernement et la prière. Nous allons en parler avec le père Jacques Turc. Il est chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Il est exorciste dans le diocèse de Tarbes-Lourdes.
Et dans cette émission, direction le musée pyrénéen de Lourdes. Ce musée qui se trouve à l'intérieur de l'enceinte du château fort de Lourdes. Anne Lasserre a sélectionné cette semaine comme auteur Monsieur le Bon Didier. Ce sera à écouter aux alentours de 12h50. Voilà pour les grandes lignes de cette émission. Émission qui démarre avec l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron.
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
L'agenda des diocèses nous amène maintenant du côté de Bayonne. Bonjour Violaine Ricourt-Dumas.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. On va détailler la partie agenda, la partie béarnaise, avec dans un instant le pèlerinage du diocèse de Bayonne à Lourdes. C'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. On en parlera dans quelques instants. Mais pour débuter cet agenda, on va évoquer la célébration des 10 ans de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre. C'est à Pau ce week-end.
Tout à fait, cette fraternité qui est présente depuis 10 ans dans notre diocèse. Les messes se déroulent à l'église Saint-Louis de Gonzague, qui est une petite église, hein, presque une chapelle, à Pau, sur la paroisse du Christ Sauveur. Et donc, il y a une petite communauté qui est présente. Et donc, ils fêtent leurs 10 ans. Ce sera dimanche 14 septembre à 10h30, une messe en l'église Saint-Louis de Gonzague, à Pau, suivie d'un repas pour ceux qui s'inscrivent. Et donc, en présence des deux prêtres qui sont présents dans notre diocèse. Et il y aura également des invités, l'abbé Vincent Ripton qui a été également prêtre ici à Pau et puis qui a été aussi responsable de la fraternité Saint-Pierre au niveau national. Donc une messe pour donc célébrer ces 10 ans de présence de la fraternité Saint-Pierre à Pau. C'est dimanche à Pau, donc à l'église Saint-Luc Gonzague.
Autre messe à noter, c'est la messe anniversaire du décès de l'abbé Alexandre Blodeau.
Cet abbé donc qui est décédé très jeune et subitement l'année dernière, ça a beaucoup marqué bien sûr notre diocèse et puis la paroisse de Naye où il était prêtre coopérateur. Donc il y aura une messe anniversaire pour célébrer son décès. Ce sera mardi à 19h à l'église Saint-Vincent de Naye. Elle sera présidée par notre évêque, Monseigneur Marcaillet, puisque c'est lui qui avait ordonné l'abbé Alexandre Blodeau il y a quelques années. Et il y aura également la famille de l'abbé Alexandre qui sera présente. Et à l'issue de la messe, il y aura un verre de l'amitié. Donc mardi prochain à 19h en l'église Saint-Vincent de Naye pour célébrer la messe anniversaire du décès de l'abbé Alexandre Blodeau.
Pour la 7e année, le Festival du cinéma chrétien de Bayonne propose durant 7 jours de venir au cinéma.
Oui, ça vaut le coup même de venir jusqu'à Bayonne parce qu'il y a beaucoup de propositions alléchantes cette année, des films chaque soir, 8 films d'obédience chrétienne qui sont proposés avec une belle énergie pour cette 7e année. Il y aura donc l'ouverture du festival le 17 septembre avec le film Icône, et puis il y aura bien d'autres films tous les soirs qui vont être projetés, donc toujours au CGR de Bayonne qui se trouve allée de Glun, à l'entrée de Bayonne. Donc les films sont en général à 20h, mais il y en aura également le week-end du 21 septembre, du 20-21 septembre en journée. Il y en a même pour les enfants. Tout un programme à consulter sur le site du diocèse, www.diocèse64.org. Vous pouvez également aller sur le site du Festival du cinéma chrétien de Bayonne. Tous les renseignements sur ce site pour voir aussi quand est l'ouverture, la fermeture. Et il y a à la fin du festival la remise d'un prix, le prix Ictus d'Or, qui est remis au film préféré du public. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça vaut le coup, même pour faire un petit peu de route pour profiter de ce festival.
Voilà, Festival du cinéma chrétien, donc ça se passe à Bayonne. On va maintenant parler du pèlerinage annuel de l'hospitalité basco-béarnaise à Lourdes. Alors ce pèlerinage à Lourdes, c'est pas ce week-end, mais c'est le week-end prochain. C'est plus de 400 malades qui sont attendus, 800 hospitaliers, plusieurs centaines de pèlerins.
Exactement, ça dure 3 jours, donc 4 jours même, du vendredi 19 au lundi 22 septembre. C'est l'hospitalité basco-béarnaise qui accompagne ces malades comme chaque année. Et puis le point d'orgue de ce pèlerinage pour tous les diocésains, c'est la messe du dimanche 21 septembre à l'église Sainte-Bernadette de Lourdes à 10h. Elle sera retransmise d'ailleurs sur nos radios, Radio La Pourdie, Radio Présence et via le site internet du diocèse. Et il y a également une messe à la grotte le lundi 22 septembre qui est retransmise également sur nos radios. Donc ce pèlerinage, c'est vraiment un grand événement pour notre diocèse. Beaucoup de paroisses proposent d'ailleurs des bus à la journée. Le service diocésain des pèlerinages a proposé un bus sur 2 jours, mais qui est déjà complet. Donc si vous voulez venir avec votre paroisse sur la journée du dimanche 21 septembre, il faut vous rapprocher de votre paroisse. Je vais en citer 2 qui proposent des bus où on peut se raccrocher. Donc il y a la paroisse de Salise de Béarn qui propose un rendez-vous à Belloc, donc c'est le village qui se trouve près de Salise de Béarn. Le rendez-vous est à 7h45 au péage de Belloc, et puis le retour à 19h30. On passe toute la journée avec les paroissiens pour vivre la messe à 10h, ensuite un repas et puis le chemin de croix et la procession eucharistique l'après-midi. Il y a également la paroisse de Garlin qui propose chaque année un bus qui se déplace à beaucoup d'endroits jusqu'à Lourdes. Donc il part de Garlin à 7h, il va ensuite à Aurillac et ensuite il passe par Morlas et par Soumoulou. Donc c'est vraiment pour tous les paroissiens de ces paroisses qui le souhaitent, toutes les personnes qui souhaitent profiter de ce bus. N'hésitez pas pour profiter de la journée du 21 septembre à Lourdes. Je vous donne des coordonnées pour vous inscrire dans ce bus. Émile Ducousseau au 06 87 87 45 28, 06 87 87 45 28 pour profiter de ce bus donc qui desservira différents points avant d'arriver à Lourdes le 21 septembre prochain pour notre grand pèlerinage.
Voilà, pèlerinage donc annuel de l'hospitalité basco-béarnaise qui aura lieu, donc c'est pas ce week-end, c'est le week-end suivant, donc on l'a compris, du vendredi 19 au lundi 22 septembre. Alors toutes ces informations, on peut les retrouver sur diocèse64.org. C'est le site internet du diocèse de Bayonne-Lescarré-Oloron. Un grand merci, Vélène Ricourt-Dumas. Je rappelle que vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse. Et on se dit donc à très vite sur Radio Présence.
Merci beaucoup et bonne semaine à vous.
Et à suivre dans un instant, c'est Anne-Rose Jankovic qui nous rejoint en studio avec son invité. Auparavant, une pause musicale avec le duo Michel Sardou et Garou avec La rivière de notre enfance.
Je me souviens d'un arbre, je me souviens du vent, de ces rumeurs de vagues au bout de l'océan. Je me souviens d'une ville, je me souviens d'une voix, de ces Noëls qui brillent dans la neige et le froid.
Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi, d'un été qui s'achève, d'une maison de bois. Je me souviens du ciel, je me souviens de l'eau, d'une robe en dentelle déchirée dans le dos. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Je me souviens d'un phare, je me souviens d'un signe, d'une lumière dans le soir, d'une chambre anonyme. Je me souviens d'amour, je me souviens des gestes, le fiacre du retour, le parfum sur ma veste.
Je me souviens si tard, je me souviens si peu, de ces trains de hasard d'un couple d'amoureux. Je me souviens de Londres, je me souviens de Rome, du soleil qui fait l'ombre, du chagrin qui fait l'homme. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse.
Présence à Pamiers, 100.2.
Bonjour Père Jacques Turc.
Bonjour.
Vous êtes chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et vous êtes aussi le prêtre exorciste dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Et avec vous aujourd'hui, on va aborder ce sujet très important, mais très méconnu aussi, dont on peut dire parfois beaucoup de choses sans vraiment savoir de quoi on parle. Alors on va essayer de comprendre la mission que vous avez en tant qu'exorciste. D'abord, peut-être il convient d'expliquer c'est quoi ce service d'exorcisme. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot exorcisme ?
Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est un ministère qui est confié par l'évêque à un prêtre et que c'est un ministère qui relève immédiatement du ministère ordinaire de l'évêque. Il lui appartient en propre. C'est-à-dire que c'est un sujet tellement difficile, tellement complexe, que l'Église a la prudence de ne pas diffuser partout, à tout le monde, la peur du démon, la peur du diable, comme s'il allait apparaître toutes les trois minutes et que tout le monde allait se mettre à vouloir le faire sortir des personnes. Alors la première chose à dire, c'est que le diable, il ne rentre jamais dans personne. Il est toujours à l'extérieur, seulement il cherche à dévier la personne de sa relation avec le Seigneur.
Quand on dit cette personne est possédée par le démon, il y a le diable en elle, c'est pas vrai.
C'est une influence. C'est une influence, une inspiration du démon, mais le démon n'habite pas en elle. La seule personne qui peut habiter en nous, c'est l'Esprit-Saint, tel que le Seigneur nous l'a dit. Donc l'Esprit-Saint nous habite. D'ailleurs, saint Augustin utilise un mot très très beau, que j'aime beaucoup. Il dit, l'Esprit-Saint aime se promener dans notre cœur. Mmh. Bon, ça c'est vrai.
Et le démon se plaît à essayer de nous dévier de ça.
Voilà, il essaye de nous dévier, de nous faire quitter le Seigneur. Et donc, il est là à l'extérieur en nous faisant voir les choses formidables que nous allons pouvoir faire si nous lui appartenons. Si on fait un acte d'allégeance à l'égard du diable, ça existe. Il y a des gens qui font des pactes avec lui ils sont complètement timbrés, si j'ose dire. Enfin bon, voilà.
Donc si je vous comprends bien, Père Jacques Turc, il ne s'agit pas de dire que le diable n'existe pas, mais il s'agit quand même de ne pas en être obsédé, de ne pas le voir partout, parce que finalement, si on est obsédé par le diable, c'est là qu'on le fait venir.
Souvent, on est obsédé par le diable parce qu'on se déresponsabilise soi-même. On a une liberté. Alors cette liberté doit être éclairée, elle doit être formée pour choisir le bien. Mais souvent, des personnes disent « mais c'est pas moi, c'est le démon ». Ben vous savez, vous pouvez reprendre l'histoire d'Adam et Ève, ils se renvoient la faute les uns sur les autres. Bon. Et finalement, c'est le serpent. Le serpent, c'est le diable. Non, mais le diable, vous voyez bien qu'il est allé, dans l'histoire d'Adam et Ève, il est à l'extérieur, il n'est pas dans le cœur ni d'Ève ni d'Adam. Mmh. Et ils choisissent un bien. Le bien, c'est que je vais être comme Dieu. Bon, ben, ils choisissent entre deux biens, mais finalement, ils évacuent Dieu. Bon, donc voilà, on peut dire ça très rapidement, bien sûr, c'est plus complexe que ça. Mais voilà, donc il cherche à nous dévier, à nous faire sortir de notre relation au Seigneur. Et ça, c'est une influence qu'il faut guérir, qu'il faut essayer d'extirper des personnes. Alors, une des choses qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, plus peut-être qu'hier, enfin donc, en tout cas moi dans mon ministère, je n'avais jamais rencontré ce ministère-là, Monseigneur Mika m'a demandé de l'assumer, et il y a une propension aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons, de mages, de cartomanciens, de voyants, que même des chrétiens vont consulter. Pourquoi ? Ça m'a beaucoup interrogé. Parce qu'ils cherchent à percer le mystère du mal. Et ça, c'est tout à fait un éloge qu'on peut faire pour ces gens qui vont les consulter. Mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas là, nous. On n'est pas présent pour les aider à réfléchir sur ce que c'est que le mal, sur ce que c'est que la liberté. Qu'est-ce que je vais choisir ? Et alors, on se laisse influencer.
C'est-à-dire que le mal, il intrigue quand même. On a quand même envie de creuser qu'est-ce qu'il y a derrière ce mal.
Voilà, c'est tout à fait légitime.
Et c'est tout à fait dangereux aussi.
Non, parce qu'il faut bien essayer de voir comment il se fait qu'il y a du mal comme ça dans le monde. Alors, c'est très lié au péché, c'est très lié aux mauvaises influences. Et donc, c'est quelque chose de très important. Vous voyez, c'est lié au sacrement de pénitence, c'est lié aussi à l'absence de Dieu. Et à l'absence de présence peut-être de l'Église pour écouter. Moi, je suis très frappé dans le service. Donc, nous sommes une petite équipe et nous écoutons les personnes. Une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure quelquefois. On écoute, on les fait parler sur ce qu'ils vivent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? Et là, on découvre qu'on les apaise uniquement parce qu'on les a écoutés. Mmh. Et ils disent « Ah, merci de m'avoir donné tant de temps ».
Donc c'est un service d'écoute d'abord, le service de l'exercice.
Bien sûr, pour les aider eux-mêmes à réfléchir sur leur propre existence.
Et ça suffit parfois ?
Alors, ça suffit quand on arrive à... Alors, ça n'empêche pas de prier avec eux. On prie avec les personnes. On ne fait pas le rituel, le rite de l'exorcisme. Il y a deux exorcismes, il y en a un mineur et un majeur, bon, peu importe. Mais on va prier avec eux pour leur montrer qu'il faut rester attaché au Seigneur et non pas se vouer à ce que peut-être des cartomanciens ou des voyants leur ont dit, vous êtes attaqué par le démon. Et après, il nous faut une force terrible pour extirper avec un tire-bouchon de leur tête ce qu'ils ont cru.
Ce que vous nous dites, c'est que souvent, ils viennent vous voir une fois qu'ils ont consulté tous ces espèces de marchands d'illusions, si on peut dire ça comme
tout
ça. Il faut quand même dire qu'il y a 28% de la population française qui consulte ces gens-là.
Voilà.
C'est énorme.
Et vous
les récupérez, entre guillemets, après, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ça les a pas aidés. Ça a peut-être un peu vidé leur compte en banque.
Voilà, exactement. La dernière fois, c'était une femme qui me dit « j'ai dépensé 280 euros ». Ah, je lui dis, bon, non, c'est cher. Oui, mais plus c'est cher, plus on les croit. C'est incroyable. Alors moi, à la fin, elle me dit, et combien je vous dois ? Mais je lui dis, mais madame, ici, c'est hors de prix. Alors elle me dit, ah bon ? Mais oui, vous ne pouvez pas acheter Dieu. Alors là, elle a souri, elle a compris.
Alors ça fait sourire, mais cela dit, ça nous recentre aussi, puisque, en fait, il s'agit d'avoir une vie de prière. C'est ça, là, mais éviter la présence du diable, il faut avoir une vie de prière constante.
Alors, je ne dirais pas complètement cela, parce que vous avez des chrétiens qui sont tout à fait chrétiens, qui pratiquent la foi, qui prient, qui reçoivent les sacrements, qui vont à l'Eucharistie, qui reçoivent le sacrement de pénitence, et qui ont des troubles, et des troubles profonds et sévères. Et c'est là où c'est difficile de faire le lien, de faire le discernement entre des pathologies psychiques, des pathologies que moi dont je n'ai pas la clé, dont nous n'avons pas la clé, nous ne sommes pas psychologues. Et on a dans notre service un référent qui est psychologue à qui, quelquefois, on envoie, on dit, bah, écoutez, cette personne-là peut vous aider, allez la voir. Mmh. Bon. Donc, il est difficile, mais il y a des chrétiens qui sont effectivement influencés par des attaques du démon. Ça, c'est vrai.
Et ça ne remet pas en cause leur foi ?
Non. Non. Mais ils ne savent pas comment s'en sortir. Et quelquefois, ça dure. Ça dure des années. Ça dure des années parce que l'influence du diable est tenace.
Et quelle est la faille qui permet au diable de s'incruster dans ce cœur de cette personne qui a pourtant la foi ? Qu'est-ce qui fait que le diable trouve en cette personne-là une faille dans laquelle il peut...
Si j'avais la réponse, ce serait simple. Mais je n'ai pas la réponse. Souvent, il profite de situations inextricables dans la vie des personnes.
C'est-à-dire des blessures qu'elles ont
eues. Des blessures. Ou alors des cascades d'événements que les personnes ne comprennent pas et interprètent comme une influence du démon. Je vous raconte un fait que j'ai en mémoire. Voilà, ma machine a cassé, j'ai voulu aller la faire réparer, je suis parti en voiture, j'ai eu un accident de voiture. Et quand je suis rentré, mon père était tombé de l'échelle. Mais vous voyez, le démon, il est là. Je leur dis, mais mon pauvre monsieur, il y a des successions et des cascades d'événements malheureux, ça arrive. Vous voyez, ça c'est une des choses. Alors, il profite, le démon, de cette faiblesse, de cette croyance, de cette incompréhension des événements qui se produisent et qui disent, mais comment ça se fait que ça m'arrive ? J'ai rien fait pour ça. Évidemment, les gens ne sont pas coupables. Et même des chrétiens, ça peut leur arriver. Oui. Et là, il faut, plutôt que de les centrer sur le démon en leur disant, mais c'est le démon qui veut ça, mais orientons-les vers le Christ. Et alors, on peut faire une méditation sur les tentations que Jésus a eues toute sa vie. Il a rencontré le démon lui aussi.
Oui, Jésus lui-même a mené un combat contre le mal, contre le démon.
Et c'est situé au début de l'évangile de Saint Matthieu, parce que ça veut dire que les trois tentations qu'il a eues, par le démon qui l'emmène ici ou là, il va les avoir toute sa vie. Toute la vie dans le ministère de Jésus va être une sorte d'intrusion, l'influence du démon pour lui dire, mais écoute, t'es le fils de Dieu. D'ailleurs, c'est comme ça que commence avec une des tentations. Si tu es le fils de Dieu, ben oui, je suis le fils de Dieu, après tout. Mais qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de sauter du pinacle du temple et puis de faire en sorte que, eh ben maintenant, tout le monde va me croire. Ça sera plus facile, quand même, la mission sera, je n'aurai pas à souffrir la passion. Donc le diable, il intervient pour qu'il ne souffre pas la passion. Et pourquoi Jésus ne saute pas du temple ? Mais parce qu'il a voulu être homme comme chacun d'entre nous, donc il se laisse aussi tenter comme chacun d'entre nous, et s'il saute du pinacle du temple, il se tue. Voilà, c'est un homme comme nous. Et c'est pour ça qu'il ne saute pas. C'est pas parce qu'il met le Dieu à l'épreuve de lui envoyer des anges pour qu'il ne tombe pas par terre. Il sait très bien que de toute façon, s'il saute, il se tue.
Donc, la foi, la vie de prière, n'empêche pas le diable de nous tenter.
Non. La meilleure preuve, avec Jésus, il part au désert, justement.
Ni de nous faire des croche-pieds, mais il nous empêche ou il nous aide à nous relever si jamais le diable nous fait un croche-pied.
Bien sûr, bien sûr. De nous détourner du Seigneur.
Comment on fait pour discerner, puisque c'est votre mission, mais c'est peut-être la mission qu'on a chacun de nous, entre ce qui relève du péché et puis ce qui est vraiment de l'ordre de la présence et de la une espèce de possession du diable.
Ça ne relève pas toujours du péché. Je vais vous raconter. Alors ici à Lourdes, nous accueillons des gens qui viennent de partout, d'Australie aussi bien que du Canada. Je parle là de deux jeunes que j'ai rencontrés avec leur famille. Et le premier, il avait fait des hautes études en Suisse, de commerce, etc. Il était diplômé, tout à fait bien dans sa tête. Et je le reçois, et il avait une agoraphobie. Il ne pouvait pas voir les gens. Non, c'était impossible. Il était tout le temps traumatisé par la rencontre des personnes. Alors, il est venu avec son père, sa mère et son frère. Et je l'ai écouté longuement. Et vraiment, je lui demande, et qu'est-ce que tu fais toute la journée ? Il me dit, je lis la Bible. Alors, je me dis, tiens, curieux, il lit la Bible, il prie, il lit la Bible. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vit des choses extraordinaires. Et après, ben, je dis, bon, on va aller prier ensemble, etc. Mais quand même, avant, je lui demande, mais ces troubles-là, ils viennent depuis quand? Il me dit, depuis l'âge de 3 ans. Bon, moi, je me suis dit, mais moi, à 3 ans, j'ai aucun souvenir de ce que je faisais à 3 ans. Hein. Mmh. Alors, je lui dis, mais il n'y a pas quelqu'un qui t'a embêté à l'âge de 3 ans? Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose de psychosomatique qui laisse des traces dans ce jeune. Il me dit, j'ai aucun souvenir. Bon. Mais simplement, il dit que c'est à l'âge de 3 ans. Bon, moi, je ne voyais pas comment le démon intervenait dans sa vie. Bon, peu importe, mais enfin, il avait cette déficience. Alors, on est allé prier. On n'a pas fait d'exorcisme, mais on est allé prier. Et à la fin, son père me dit, mais vous savez, il a un très bon job. Hein. Ah bon, je lui dis. Il me dit, oui, il garde les animaux des personnes qui partent en vacances, des chats, des chiens, etc. Et il gagne beaucoup d'argent. Ben, je lui dis, bon, mais il ne m'a pas raconté ça. Il m'a dit qu'il priait toute la journée ou qu'il lisait la Bible. Alors je lui dis, et tu sais que dans la Bible, le Seigneur parle quelquefois par les animaux? Oui, il me dit, l'ânesse de Balaam. Alors moi, j'étais stupéfait. Il savait ça par cœur. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément des gens qui ont des vies dissolues, qui font des péchés, etc. Mais ils ont des troubles. Bon, moi, je ne sais pas comment expliquer davantage. Vous voyez, mais c'était pas un trouble sévère, puisque ce garçon, il vivait une...
Et là, ça ne relève pas de votre ministère d'exorciste.
Ben si, parce que finalement, on aide les personnes à percevoir. Il est parti tout à fait apaisé. Ouais. On aide à percevoir que... Non, mais le démon, il ne va pas te chambouler ta vie comme ça. Il oui. faut que tu la reprennes en main, voilà, etc.
Donc en fait, le rôle de l'exorciste, ça commence à une attention portée à la vie de l'autre, en fait.
À l'histoire des gens.
À l'histoire des gens.
Alors moi, je suis très très frappé de ce que... Et ça, c'est vrai aussi bien ici, dans la chapelle des confessions, quand nous confessons, que dans l'écoute des personnes qui viennent demander un exorcisme, je suis très frappé par... les situations dramatiques que vivent les personnes. Et ces situations dramatiques, évidemment, elles ne les maîtrisent pas. Soit à cause de la société, soit à cause des brouilles familiales. C'est terrible, terrible ce que vivent les gens. Et donc, ils attribuent ça à quelqu'un d'autre. Ou bien à la personne qui leur veut du mal. Il y a quelqu'un qui veut me jeter un sort. Mais comment est-ce que c'est possible? Moi, j'essaye de les faire réfléchir. Une personne, là, dernièrement, m'a dit, la personne qui me veut du mal, elle est au Portugal. Et elle habite ici. Mais je lui dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Comment est-ce qu'elle aurait une puissance plus forte que celle de Dieu, qu'elle puisse à distance vous vouloir du mal et vous jeter un sort? Mais enfin, c'est vous qui le croyez. Il faut vous dégager de ça. Elle m'a dit, ah bon, vous croyez? Ben, j'ai dit, mais oui. Et elle est partie complètement apaisée en me disant, ben vous avez raison. Vous voyez? Donc on aide les personnes à prendre conscience qu'on ne peut pas attribuer le mal à n'importe quoi, à n'importe qui.
On marque une petite pause, Père Jacques-Thur, et puis on se retrouve dans un instant pour continuer cette conversation.
Merci Andros Jankovic, et cette pause, on va la marquer avec le journal régional de la mi-journée, puisqu'il est 12h et quasiment 30 minutes.
Bonjour, retour sur le mouvement Bloquons tout de ce mercredi 10 septembre. En Occitanie, plusieurs rassemblements, des ronds-points, mais également des manifestations étaient organisées dans la région. Des mobilisations dans plusieurs secteurs comme la santé, l'éducation nationale, les transports dans le public et dans le privé. À Toulouse, la manifestation à l'appel de l'intersyndicale a rassemblé 13 000 personnes. Certains manifestants animés par des volontés belliqueuses ont proféré des insultes et lancé des projectiles à l'encontre des forces de l'ordre, provoquant un climat de tension et la blessure de 3 fonctionnaires de police. Du mobilier urbain a également été dégradé. Au total, hier soir, à 19h, 61 interpellations ont été effectuées selon la préfecture. À Montauban, la manifestation initiée en milieu de matinée a pris fin sans encombre à la pause déjeuner. 400 personnes ont été recensées d'après la préfecture. Et puis à Cahors, on comptait à peine 400 personnes, 600 à Tarbes et 200 à Auch. Interruption du trafic des trains hier entre Toulouse et Auch. Un incendie sur des câbles impactant la circulation des trains. Il s'agirait d'un acte malveillant. Une plainte a été déposée par la SNCF. Le trafic devait reprendre ce matin. Du 13 au 23 septembre, c'est la semaine européenne de la mobilité à Figeac. Cet événement a pour objectif d'inciter les citoyens et les collectivités dans de nombreux pays européens à opter pour des modes de déplacement plus durables. Une semaine pour connaître des solutions locales de déplacement plus économes et écologiques, découvrir l'application de covoiturage local, tester d'autres moyens. Rencontre gratuite ouverte à toutes et à tous. Et par exemple, samedi 13 septembre, atelier d'auto-réparation de son vélo avec l'association La Roue Fédère, place Vival à Figeac, de 10h à 12h30. Autre rendez-vous, cette fois le mercredi 17 septembre, Café Échange, quelle solution de déplacement économique et écologique dans le Lot avec Figeacteur, c'est à l'arrosoir à 19h30. Rendez-vous avec les associations fuxéennes, une journée de rencontres et de découvertes. Samedi 13 septembre de 10h à 17h, la plaine du jeu Jean Sûr se transformera en véritable village associatif accueillant l'ensemble des associations sportives et culturelles de la ville de Foix. Tout au long de la journée, les associations seront présentes pour vous informer sur leurs activités et répondre à vos questions. Que vous souhaitiez pratiquer un sport, découvrir une discipline artistique, vous engager dans la vie citoyenne ou simplement trouver une activité épanouissante pour vos enfants, vous trouverez forcément une proposition adaptée à vos envies. L'ensemble instrumental d'Aveyron organise son prochain concert à Rodez pour honorer la fête du Stabat Mater, une œuvre sublime présentée par les deux solistes Marie-Laure Levallois et Lise Arbiol, samedi 13 septembre à 20h30 à la chapelle du Collège Royal à Rodez.
Merci Eric Leclerc. Retour de l'info sur notre antenne dans moins d'une demi-heure avec le journal national et international avec la rédaction française de Radio Vatican. Dans la prochaine demi-heure, direction le musée pyrénéen de Lourdes. Ce musée se trouve à l'intérieur de l'enceinte du château fort de Lourdes. Pourquoi nous irons là-bas? Eh bien parce qu'Anne Lasserre a sélectionné un auteur qui s'appelle Monsieur Le Bon Didier. Vous découvrirez toutes ses œuvres dans une vingtaine de minutes. Et dans un instant, on retrouve la suite de l'entretien d'Andros Jankovic avec le père turc.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non!
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence à la Capelle Marival, 97.7.
Nous sommes toujours en compagnie du père Jacques Turc, chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et exorciste dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Alors, juste avant la pause, père Jacques, vous parliez d'une rencontre que vous avez eue avec une personne qui pensait que quelqu'un d'autre lui envoyait le diable, en quelque sorte, depuis le Portugal jusqu'en France. Donc, vous avez aidé cette personne-là à mieux discerner. Mais cela dit, concrètement, s'il est possible de prier Dieu pour quelqu'un, il est possible d'invoquer le diable contre quelqu'un?
Je pense que oui. C'est le dialogue, vous savez bien, entre Dieu et le diable. Il dit, bon, mais ce juste-là, je te permets d'aller l'ennuyer. Mais en fait, le Job, il garde sa foi en Dieu, sa confiance. Et effectivement, il peut y avoir des gens, mais ça c'est vraiment du mal par excellence, de vouloir du mal aux autres, au point d'invoquer le diable qu'il a lui faire du mal. Moi, je ne maîtrise pas ça. Je ne sais pas. Il faut bien qu'on se dise que le mystère du mal, c'est un mystère. On ne le maîtrise pas. On maîtrise... Ce que l'on peut maîtriser, c'est de former et de canaliser la liberté des hommes. Et puis, des saints peuvent être ennuyés par le démon. Ça, c'est sûr.
Donc en fait, il faut éduquer à la présence de Dieu.
Exactement, c'est la première chose. Recentrer sur le Seigneur.
Ça n'empêchera pas le mal, le diable de faire son œuvre.
Mais non, la preuve sur Jésus. Mais Jésus, le diable ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout de sa mission. Même, je vous l'ai dit, ça commençait au début de l'évangile, et vous le retrouvez sur la croix. Mais descends donc de la croix, comme ça tu vas voir, tu vas époustoufler tout le monde, et ça sera fini. Non, Jésus va jusqu'au bout du don qu'il fait de sa vie.
Je voudrais qu'on parle des personnes qui vous sollicitent, qui viennent vous voir, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Ce sont souvent des personnes qui sont allées voir des charlatans, entre guillemets, oui. Enfin, en tous les cas, des personnes qui ne les ont pas vraiment aidés, qu'on fait croire, peut-être, qu'on donnait des illusions, des marchands d'illusions, peut-on dire. Ce sont des personnes qui sont souvent dans la détresse, qui accumulent un peu les souffrances. Ce sont donc des pauvres. Quid de la miséricorde ? Comment se fait-il que ces personnes-là, ces pauvres, encore une fois, ils subissent une attaque en plus, une souffrance en plus, celle du diable ? Dieu est pourtant là, Dieu a pourtant pitié, Dieu est miséricordieux. Comment se fait-il que leur pauvreté ne suffise pas à les prémunir des attaques du diable ?
Je crois que vous avez raison de dire que ce sont des gens pauvres. Mais moi, je suis frappé, ce n'est pas les mêmes cascades dont je parlais tout à l'heure, mais je suis frappé de ce que les gens ont, par leur choix de vie, quelquefois, déréglé l'harmonie de leur existence. Quand je vois le nombre de divorces, le nombre de brouilles en famille, le nombre de vies sexuelles débridées, on passe d'un homme à l'autre, d'une femme à un autre. Je me dis, mais comment cela ne laisse pas des traces, quoi. Ça laisse des traces psychologiquement. Et le diable s'immisce là-dedans. Il s'immisce. Vous voyez ? Et c'est là que nous n'arrivons pas bien à le maîtriser, mais il est sûr que une vie dissolue conduit à laisser l'influence du diable intervenir dans votre vie. Vous voyez, ça me frappe parce que à peu près 200 personnes nous avons reçues. Et sur ces 200 personnes, je ne sais pas quel est le pourcentage, il faudrait que je le fasse. Parce qu'on prend des notes, hein, on prend des notes, on a toutes les interventions. Il faudrait que je fasse la recension du nombre de personnes qui, du point de vue de la sexualité ou de la vie familiale, ont été troublées.
Ah oui.
Ont été troublées, et ça laisse des traces. Par exemple, des personnes qui viennent et qui nous annoncent que dans la nuit, ça se passe souvent dans la nuit, elles ont des troubles. Et des troubles parce qu'il y a c'est surtout des femmes qui racontent ça, elles ont un mari de nuit qui vient. Et qui vient faire l'amour avec elles. Alors évidemment, c'est dans un songe, c'est dans la nuit. Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, mais j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je me demande, j'en suis pas sûr de ce que je vais vous dire, mais je me demande si ça n'est pas le résultat d'une vie dissolue, qui laisse des traces. Bon, on a vécu tel ou tel rapport sexuel avec des personnes.
Il y a toujours une blessure à l'origine.
Et voilà, il y a une blessure. Et c'est ça que nous essayons de faire, de remonter à la source. Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Quand est-ce que ça s'est passé la première fois ?
On n'a pas parlé des plus jeunes, des ados, des enfants. Est-ce qu'il arrive que des parents ou des grands-parents vous sollicitent en disant « mon enfant, mon petit-enfant, en bas âge ou ado, est possédé par le démon, il y a un problème avec le diable ?» Et est-ce que ça, c'est possible ?
Alors, je ne dirais pas possédé, mais je dirais comme tout à l'heure, qu'ils sont influencés par une force qu'ils ne maîtrisent pas. Et de fait, nous avons reçu une famille comme cela, où il y avait trois enfants, dont deux étaient absolument insupportables. Nous sommes réunis avec les parents. Les parents ont quitté leur boulot et sont des personnes aidantes maintenant, payées comme aidantes, soignants, aidants, de leurs propres enfants. Et les enfants qui étaient là, ils étaient insupportables avec nous, dans la salle où nous étions. Ils vociféraient, ils criaient, mais des cris stridents, quoi. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit, j'en sais rien. Ils sont accompagnés.
Mais là, vous ne pouvez pas vous dire que c'est juste un problème d'éducation.
Non.
Vous voyez bien qu'il y a un souci.
Bien sûr, je n'ai pas dit ça du tout. Hein. Ce n'est pas vrai comme ça tout le temps.
Eh oui.
Non. Là, moi, j'étais très interloqué. Ils voient des médecins qui soignent les enfants, qui donnent des drogues, des médicaments pour qu'ils se calment. Là, nous avons fait un exorcisme. On est allé à la chapelle Saint-Patrick, où nous recevons des personnes. Je me suis habillé, on a célébré un rituel de l'exorcisme. Ça a été épouvantable, ils ont vociféré pendant tout le temps. Bon, moi, je ne sais pas comment expliquer ça, vous voyez.
Alors, il nous reste peu de temps, mais on aurait encore beaucoup de choses à se dire. S'agissant de la prière de l'exorcisme, de ce rite, comment ça se passe, en fait ? Et Est-ce que ça, ce rite, suffit, si je puis me permettre de dire les choses comme ça, pour que on soit sûr que la personne soit débarrassée des provocations du diable?
Comme toutes les célébrations liturgiques proposées par l'Église, il y a un rituel qui objective la façon de s'y prendre. C'est-à-dire que moi, je fais confiance à ce que l'Église propose. Et nous rentrons dans ce rituel sans faire autre chose que ce qui est marqué dans le rituel. Donc, il y a des gestes, on présente la croix, on peut bénir avec de l'eau bénite, on peut faire un signe de croix sur les personnes, on peut les bénir. Il y a des gestes qui accompagnent la prière. Et il faut se couler dans ce que l'Église propose, dans le geste et la prière de l'exorcisme. Ça peut paraître un peu formel. Quelquefois, je corrige un mot ou l'autre, mais pas beaucoup. Pour rester vraiment dans la fidélité à ce que l'Église propose, parce que c'est elle qui essaye de dominer le mystère du mal par le rite de l'exorcisme.
Comment le diable réagit à ce rituel? Enfin, en d'autres termes, comment la personne qui est en face de vous réagit?
Elle, quelquefois, elle est très violente. Quelquefois, ça suscite une violence terrible.
Vous me disiez, en préparant cette émission, qu'un des signes, c'est aussi que la personne se mette à crier dans une langue qu'elle n'a jamais apprise et que personne ne comprend.
Oui, c'est un des signes majeurs.
Donc ça vous arrive d'être...
M'est arrivé deux fois, oui. Deux fois, la personne... à parler d'une langue que je ne connais pas. Je devinais un peu une langue étrangère, mais enfin bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est incompréhensible. Mmh. Voilà. Donc le rituel, il est très important pour nous parce que c'est une garantie de ne pas faire ce que moi je pense, mais ce que l'Église nous propose de faire dans des cas difficiles où précisément nous n'avons pas toute la lucidité voulue pour comprendre ce qui se passe. Mais ça, c'est le grand mystère du mal, du combat des ténèbres contre la lumière. Vous savez, dans l'évangile de Saint Jean, il n'y a jamais aucun exorcisme de Jésus par rapport à des personnes. Mais il y a une lutte permanente qui est mise en lumière, je vais reprendre le même terme, mais c'est le combat des ténèbres contre la lumière. Mmh. Et ça, le Seigneur est affronté à cela, la foi chrétienne est affrontée à cela. Et dans le monde d'aujourd'hui, le mal est présent. Ça, c'est clair. Moi, j'ai envie de dire aussi aux prêtres qui rencontrent des personnes comme ça, qui sont troublées, que le sacrement de pénitence est beaucoup plus fort que le rite de l'exorcisme, puisque c'est un sacrement. Donc il n'hésite pas à proposer...
Ah oui, le rite de l'exorcisme n'est pas un sacrement.
Non, c'est pas
c'est
un sacrement.
C'est une prière.
C'est un sacramental, avec des gestes, comme je vous l'ai dit, on présente la croix du Seigneur, on essaye de s'approcher, on remet les personnes devant le Seigneur. Et on leur dit, mais continuez de prier, n'ayez pas peur.
Voilà. Donc ça peut être complémentaire du sacrement de pénitence, mais ça ne remplace pas le sacrement de pénitence.
Non, pas du tout. Et donc, que les prêtres qui m'entendent n'envoient pas immédiatement les personnes vers l'exorcisme. Ceux qu'ils vivent, eux, avec les personnes dont ils ont le pressentiment qu'ils sont influencés par le démon, eh bien, ils ont plus de pouvoir que moi, si j'ose dire.
Oui, mais ça suppose que vous avez, vous, Père Jacques Turc, suivi une formation pour être exorciste de César. Ça suppose que les prêtres aussi soient formés à ça.
Oui, et puis moi, je n'arrête pas de travailler là-dessus. Je travaille. Je suis en train de travailler sur... Parce qu'on a une équipe, il faut nous former les uns les autres, et je suis en train de travailler sur la présence, justement, de tous les exorcismes dans l'Évangile, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Alors, beaucoup de faits qui sont racontés dans les Évangiles ont maintenant été élucidés par des maladies que l'on a découvertes, comme la schizophrénie, etc. Oui. Bon, alors ça, ou l'épilepsie. Autrefois, on attribuait cela à un démon impur, enfin, une impureté, mais c'est pas ça aujourd'hui, on le sait. Bon, donc là, il faut faire la distinction. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un psychologue dans l'équipe pour nous aider, ou des médecins. Il y a deux médecins dans notre équipe.
En fait, c'est vraiment une question de prière et de discernement, l'exorcisme.
Voilà. Tout à fait.
Et d'écoute. Parce que...
et je crois que c'est une goutte d'eau dans le monde d'aujourd'hui. Mais cette goutte d'eau, heureusement qu'elle existe.
Alors, ma dernière question, justement, elle est en lien avec le monde d'aujourd'hui. Il suffit d'allumer sa radio ou sa télévision ou de se mettre sur les réseaux sociaux pour voir vraiment avoir une vision assez affreuse du monde. Vous, quand vous voyez ça, vous dites ça, c'est l'œuvre du diable?
C'est l'œuvre des hommes, influencés par le bien, qui est un mauvais bien que le diable leur inspire. Mais je voudrais terminer en disant aux prêtres qui sont en charge de communautés chrétiennes, un jour ou l'autre, de dire aux communautés chrétiennes qu'il ne faut pas aller consulter des gens qui vont leur mettre dans la tête des histoires stupides. Les cartomanciens, ils n'ont aucune formation. Rien. Ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir dire des choses, mais c'est faux. Donc il faudrait vraiment qu'on forme les chrétiens à dire, écoutez, si vous avez un problème, venez à l'église, venez prier, n'allez pas voir des gens qui vont essayer de vous résoudre le problème du mal. Bien sûr que vous avez raison de vouloir le percer, ce mystère du mal.
Mais il faut aller dans le bon endroit pour ça.
Eh bien voilà. Et peut-être qu'il faut que nous, chrétiens, l'église en général, nous proposions davantage de lieux d'écoute.
Merci beaucoup, Père Jacques Turc. On a bien compris votre mission, le sens de votre mission, et puis vraiment ce travail d'écoute, de discernement et de prière. Vraiment, ce sont, on peut dire, les trois piliers de votre mission d'exorciste diocésain.
Merci de m'avoir invité et de mettre ça en lumière, mais en lumière pour le Christ, non pas pour le diable.
Merci beaucoup.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
Merci d'être fidèle à Radio Présence. Merci d'être avec nous. Vous allez nous lire des passages que vous avez sélectionnés dans les livres et dont vous avez choisi de commencer cette nouvelle saison de Chroniques Pyrénées en évoquant la création du musée pyrénéen à Lourdes.
Et oui Philippe, nous enregistrons ces chroniques dans les studios de Radio Présence, à Lourdes et nous voyons par les fenêtres, nous admirons par les fenêtres le musée pyrénéen qui se dresse sur son piton rocheux. Donc il était temps, à mon avis, d'évoquer sa fondation.
Tout à fait, parce que le musée se trouve dans le château fort. Hein. Voilà.
Oui. Ouais. Ah, voilà, oui, c'est vrai. Oui, c'est exact. Et nous devons sa création à Marguerite et à Louis le Bon Didier, qui se sont pris de passion pour les Pyrénées, pour leurs habitants, pour les traditions, à un point tel que Marguerite le Bon Didier décide même, Philippe, de se faire appeler Margalide, un dérivé de Marguerite usité dans les Pyrénées.
Ils habiteront même dans le château. Et à la mort de son mari, Margalide le Bon Didier reste dans le château et poursuit l'œuvre commencée il y a près de 30 ans. Elle a alors 67 ans. On écoute donc le récit que vous avez sélectionné pour nous.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Dans un ouvrage qui s'intitule « Femmes d'exception en Midi-Pyrénées », la journaliste Philippine Arnal évoque Marguerite Louville, née en 1879, qui, par son mariage, devient Marguerite le Bon Didier. Quand Louis le Bon Didier, receveur de l'enregistrement, est nommé à Campan, tous deux découvrent les Pyrénées, se passionnent pour ces montagnes et fondent à Lourdes le musée pyrénéen. Sur le manche de son piolet et sur celui de son mari, Marguerite a gravé le nom de 15 sommets de plus de 3000 mètres qu'ils ont gravis ensemble, écrit Philippine Arnal. En moins de 2 ans, depuis leur arrivée à Campan en juillet 1901, ce jeune couple, originaire, elle des Ardennes, lui de Lorraine, a déjà réalisé la plupart des randonnées possibles dans la région et conquis de nombreux pics. Ils sont éblouis par les montagnes, le ciel, les lacs, les glaciers. Ils ne s'en détacheront plus. En quelques mois, ils enchaînent les grands classiques de la région. Le cirque de Gavarnie, le lac de Gaube et le Bastia de Hesch, le pic du Midi de Bigorre. Puis les monts de plus de 3000 mètres, Néouvielle, le Mont Perdu et les deux pics d'Astazou, la Mounia, la Netto. Ils partent même pour un mois en randonnée avec un guide dans le but d'atteindre plusieurs sommets entre le mont Artaud et les Posets dans les montagnes catalanes et aragonaises. Le jeune couple, toujours accompagné de son chien Vénasque, est passionné par cette région d'altitude au point que Marguerite décide de changer de prénom pour celui de Margalide, son équivalent local. Margalide, en Bigorre, est aussi une fée, partagée entre le monde du visible et celui de l'invisible. De son côté, Louis, receveur de l'enregistrement, se documente sur l'histoire régionale et cristallise son centre d'intérêt dans la création, en novembre 1903, de la Fédération internationale des sociétés pyrénéistes, dont il restera le secrétaire général pendant 43 ans. Après avoir atteint au moins 22 pics de plus de 3000 mètres, Margalide est aussi la première femme des Pyrénées à chausser les skis, ce sport venu des pays nordiques. Mais c'est justement cette nouveauté qui, après une chute, lui cause un épanchement de synovie au genou et lui interdit définitivement la pratique des sports de montagne. Pendant l'été 1908, le bureau de l'enregistrement de Campan est supprimé et Louis, affecté en Dordogne, décide de démissionner. Cela fait longtemps qu'il songe à sa reconversion. Pourlet Le Bon Didier commence une nouvelle vie, une nouvelle activité beaucoup plus prenante, organiser l'émergence du tourisme dans les Pyrénées. Il décroche d'abord une petite subvention pour rénover, aménager et chauffer l'ancien hospice de Payol, futur hôtel de l'Arbison, et le transforme en refuge d'hiver pour les skieurs. Ils enchaînent par l'hôtellerie du Pic du Midi à Sancourt, actuelle hôtellerie de Costala. Et l'année suivante, ils organisent à Payol le premier concours de ski des Pyrénées. Alors que Louis continue de réunir et de collectionner livres et documents sur l'histoire des Pyrénées, Margalide aime fréquenter les foires, les marchés locaux, pour glaner et réunir des objets typiques de la région. Quand arrivent les temps difficiles de la Grande Guerre, Louis, exempté, est enrôlé comme ambulancier à Bagnères, pendant qu'à Lourdes, Margalide s'occupe des réfugiés lorrains en leur apprenant la sculpture sur les portes de leur appartement. En 1918, quand la vie économique reprend, le couple Le Bon Didier, désormais connu pour ses initiatives touristiques, est sollicité pour mener une campagne de promotion des Pyrénées à travers la France. À leur retour, Louis est nommé inspecteur de l'Organisation touristique nationale. Margalide, elle, poursuit sa collecte des traditions pyrénéennes. De fil en aiguille, une idée émerge dans leur esprit et le château de Lourdes en ruine attire leur attention. C'est après avoir visité le musée Arlatène à Arles que Louis a le déclic. Parcourant le vieux château, l'idée me vint qu'il y avait autre chose et beaucoup mieux à faire. Ce qu'il fallait faire, c'était doter les Pyrénées du musée que Mistral avait donné à la Provence, dans le même sentiment de conservation, de glorification et de prosélytisme. Il fallait créer un musée de l'ensemble de la chaîne et sous tous les aspects de l'activité et de l'art humain dans les Pyrénées. En juillet 1920, le projet se concrétise sous la forme d'une convention entre la ville de Lourdes et le Touring Club de France pour 99 ans. Le couple Le Bon Didier a carte blanche pour la création du musée pyrénéen. Ils y investissent tout leur temps et leur argent en réparation et aménagement de salles laissées depuis longtemps à l'abandon. L'ouverture au public se fait en mai 1921 et l'inauguration officielle par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Léon Bérard, se fait en septembre 1922. Louis est nommé conservateur honoraire et Margalide secrétaire, puis rapidement conservatrice adjointe. D'abord bénévole, ce ne sont que plusieurs années plus tard, alors que le nombre d'entrées payantes au musée a explosé, que Louis réclame un salaire. Le 21 avril 1921, Louis et Margalide dorment pour la première fois dans le château où un appartement a été aménagé à leur intention. Et voici comment a été fondé à Lourdes le musée pyrénéen. Margalide ne cesse de travailler et d'année en année, les reproductions de maisons régionales se multiplient sur l'esplanade du château. Elle conçoit même l'éclairage intérieur des maquettes, met en scène des personnages taillés dans le bois. En 1931, la barre des 100 000 visiteurs par an est dépassée. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage intitulé « Femmes d'exception en Midi-Pyrénées », ouvrage écrit par Philippine Arnal et publié en 2012 par les éditions du Papillon Rouge.
Voilà, le château fort et son musée attirent toujours de très nombreux visiteurs et les maquettes ont un grand succès auprès du public. Il faut dire qu'elles sont très très réussies. On peut admirer une maison basque, une maison de Salis du Béarn, Saint-Bertrand de Comminges, un village du Haut-Aragon, etc. En plus, elles sont bien exposées, elles sont sur la grande terrasse, et on a une vue sur Lourdes, oui. Et c'est magnifique.
Ah, c'est magnifique, moi j'ai beau les voir et les revoir, je les admire toujours autant.
Oui.
Et on peut préciser, Philippe, que ces maquettes sont construites avec du fer, du bois, du ciment, des ardoises, et les détails et les mises en scène sont remarquablement soignés.
Voilà, et c'était Margali qui l'avait fait, hein, tout ça.
Oui, oui, oui.
On peut également signaler qu'à l'intérieur de la forteresse est présenté un riche patrimoine évoquant la vie domestique, la vie rurale et pastorale au XIXe siècle. Des expositions ont lieu régulièrement dans les murs du musée pyrénéen. Cet été, une exposition a été consacrée au pyrénéiste et photographe Lucien Brié.
Oui, et tout cela, c'est grâce à Louis et Margalide Lebondidier. Et deux sommets portent d'ailleurs le nom de ces amoureux des Pyrénées. Il existe un pic Lebondidier et un pic Margalide. Et si je ne me trompe, Philippe, je crois qu'ils sont tous deux dans le massif de la Maladeta.
Je vous crois sur parole. On peut enfin rappeler qu'une curieuse légende est attachée au château fort de Lourdes. Charlemagne, en revenant d'Espagne, a assiégé ce château dont le seigneur était alors un prince sarrasin du nom de Mira.
Oui, et le château alors s'appelait Mirambel, et le siège se prolongeait, le château était à court de vivres, et un aigle qui venait de pêcher une énorme truite la laissa échapper en survolant le château.
Habileté suprême, hein. Mira offrit cette truite à Charlemagne, faisant croire que le château regorgeait de provisions.
Et oui.
Voilà. Et donc, c'est ce qui explique le blason de la ville de Lourdes, hein, avec la truite, l'aigle.
Voilà, les tours du château.
Exactement.
Et la truite.
Et en fond, les sept pics des Pyrénées.
Voilà.
Voilà. La semaine prochaine, avec vous, vous évoquerez la vie d'autrefois dans le Béarn, grâce à un ouvrage du journaliste Jean-François Ratonnat. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.
Merci beaucoup, Anne Lasserre. Au revoir.
Au revoir.
Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit. Que je t'embrasse lorsque tu pleures, je deviendrai tout fou, tout clown gentil. Pour que tu souris, je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Et tout m'est égal, tout à part toi. Je t'aime. Ressasse moi mes souvenirs, je serai jamais éteint, hautain, lointain. Pour que tu sois bien, fais-moi une place dans tes urgences, dans tes audaces, dans ta confiance. Je serai jamais distant, distrait, cruel. Pour que tu sois belle, je veux pas que tu t'ennuies, je veux pas que t'aies peur. Je voudrais que tu oublies le goût du malheur. Je t'aime.
Présence dans la Haute Ariège 92.7
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Cent 192 nouveaux évêques reçus par le pape ce matin à l'issue